Retour dans l'international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, l'émission réalisée avec notre partenaire, le quotidien français Le Monde, notre invité, Jacques Attali, que nous avons tenté de présenter, mais les aspects de votre personnalité, de votre parcours sont multiples. On vient de parler de la situation de la France, on va élargir encore que sur l'Europe. Vous êtes un Européen convaincu, vous avez travaillé aux côtés de François Mitterrand, grande figure également de la construction européenne. Vous comprenez, vous êtes déçu, comment est-ce que vous vivez actuellement cette montée de l'euroscepticisme, et pas seulement en France, voire des anti-européens, pour reprendre la discussion que nous avions avant cette pause?
En même temps, il faut regarder les choses un peu plus objectivement que ça. Au Parlement européen, les anti-européens sont pas très nombreux. Ils représentent même pas le tiers, un petit tiers. En plus, ils sont très divisés entre eux. Ils n'ont pas du tout la même doctrine. Il y a une vaste majorité pro-européenne, fédéraliste dans le Parlement européen. Il y a une majorité en Europe très large dans tous les pays européens pour la préservation de l'euro, donc il n'y a pas péril en la demeure. Bien sûr, on assiste sur les trains qui arrivent pas à l'heure, c'est vrai. Bien sûr, il y a des partis fascistes comme aux Pays-Bas, en Belgique, en France et ailleurs. Mais bon, ça représente...
Oui, mais on vote de moins en moins aux élections européennes et ces eurosceptiques sont de plus en plus nombreux.
Non, pas tellement, pas vraiment.
L'abstention progresse.
L'abstention progresse un peu, oui. Mais ça tient à des raisons très profondes, c'est que on envoie à Bruxelles souvent des gens qui sont pas les meilleurs, volontairement. Pourquoi? Parce que les chefs d'État ne veulent pas avoir à Bruxelles un homme de leur propre pays qui puisse leur faire de l'ombre. C'est pour ça que les Allemands n'ont jamais envoyé un Allemand important à Bruxelles et qu'on a pu faire en sorte que Jacques Delors, dont c'était pas le tour de la France, puisse prendre la présidence de l'Union européenne, de la Commission. Et aujourd'hui, on est dans cette même logique. Après envoyer M. Prodi, qui était un mauvais, on envoyait encore plus mauvais M. Barroso, j'espère qu'on ne fera pas pareil, même si on s'oriente vers ça la fois prochaine. Donc, enfin, sauf M. Juncker, mais il est repoussé, justement, parce qu'il a une certaine forme de personnalité. Donc, beaucoup va se juger sur la capacité du Parlement européen de faire valoir ses droits. L'homme qui a emporté les voix en majorité relative, c'est M. Juncker. Il est très important qu'il soit élu, quoi qu'on pense de son programme, parce que comme il est majoritaire, s'il est nommé, ça montre qu'il y a un certain basculement de vers un fédéralisme. S'il n'est pas nommé, qu'on retourne aux petites batailles, alors l'Europe se trouve sans projet, ça va être une grande incertitude. Et les marchés, comme on dit, c'est-à-dire les prêteurs, regardent cette question de très près. Ils se disent, si M. Juncker est nommé, ça veut dire que l'Europe, on peut la lire dans l'avenir, elle a une dynamique d'intégration plus grande parce que le Parlement va prendre plus de pouvoir. Si Monsieur Juncker n'est pas nommé, si on nomme n'importe qui d'autre, qui que ce soit, on dira bon, alors ça reste une union intergouvernementale, ils vont continuer à se battre, il va rien se passer, l'Europe va se défaire. C'est pour ça que c'est une question très importante. J'espère pour ma part que la dynamique fédérale va l'emporter, au moins dans la zone euro, parce que c'est clair, si on ne fait pas une avancée fédérale, si on ne fait pas un système de financement par l'argent privé qui existe en masse, par une garantie simplement publique, des grands travaux européens, tout va se défaire.
Et pendant ce débat en amont des européennes, il y avait tout le débat sur l'élargissement. Certains critiquant une sorte de dilution de l'Europe. Vous-même, vous étiez partisan d'une Europe continentale, plus grande que celle des 28, mais vous allez jusqu'à 35. Est-ce que vous maintenez
penchant? Oui, bien sûr. Si je peux reprendre l'historique, n'est-ce pas? Quand est tombé le mur de Berlin, j'ai à ce moment-là proposé la création de la BERD. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très important d'arrimer la Russie et tout ce qui va autour à l'Europe. La Russie est une nation d'Europe. Mais je pensais qu'il fallait approfondir l'Union dans un petit nombre avant de s'étendre aux autres et donc leur donner un espace dans la BERD, qu'on a fait d'ailleurs, puisque c'est la seule chose qu'on a créée après la chute du mur. Et nous avions proposé en même temps la Confédération européenne pour faire entrer ces pays. Les États-Unis, qui veulent absolument pas d'une Europe forte, pour empêcher l'approfondissement, ont poussé les pays à dire non, on peut rentrer tout de suite, et l'Allemagne a suivi. En réalité, on a eu un élargissement beaucoup trop rapide. Donc aujourd'hui, je souhaite qu'on ait les deux à la fois. Je souhaite qu'on ait un élargissement le plus large possible, parce que l'Union européenne n'est plus que elle se confond avec la Confédération. Et M. Poutine a rappelé récemment, d'une phrase qui n'a pas été assez relevée, qu'il est candidat à la Confédération européenne. Il a rappelé le projet de François Mitterrand de la Confédération européenne. C'est très important. Ça veut dire que si tous les pays européens étaient dans une confédération, ou l'Union européenne, c'est ce qui revient à la confédération, nous pourrions construire l'Europe intégrée, approfondir dans la zone euro.
Pour revenir au concret, ce qui se passe aujourd'hui même en Ukraine, la crise, elle provoque une régression totale de ce projet ?
Telle qu'elle est gérée, oui. Parce qu'aujourd'hui, mes amis polonais comprendront que ce n'est pas insultant à la guerre ce que je vais dire, mais le maître de l'Occident, c'est la Pologne. D'ailleurs, c'est pas hasard si M. Obama était en Pologne. M. Obama était en Pologne parce que Chicago est la deuxième ville polonaise du monde et qu'il est lui-même de Chicago et que les Polonais ont une obsession, c'est tout sauf les Russes, qu'on peut comprendre à travers leur histoire. Et donc, les Polonais poussent l'Occident à empêcher les Russes d'entrer dans l'Union européenne, à avaler l'Ukraine, dont les Polonais ne voulaient pas d'abord. Puis maintenant, ils ont commencé à changer d'avis parce qu'ils ont compris qu'ils auraient intérêt à ce que l'Ukraine soit dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mais évidemment, pour les Russes, c'est inacceptable. La vraie solution serait de se mettre autour d'une table, nous Européens, et d'abord nous Français, parce qu'on a l'avantage de ne pas dépendre du gaz russe, donc on n'est pas en situation de dépendre d'un maître chanteur comme les Allemands qui dépendent du gaz russe tous les matins, nous pas, donc nous devrions proposer de nous mettre autour d'une table Français et Russes, avec les Ukrainiens, à trois, pas plus, pour négocier de l'avenir de l'Ukraine comme pont entre l'Union européenne et la Russie.
On vient de voir au 70e anniversaire du débarquement ce côte à côte, je ne sais pas dire cette rencontre entre Obama et Poutine, situation tendue, Poutine un peu à l'écart. Est-ce qu'il faut avoir peur de Vladimir Poutine ?
Je pense que la comparaison historique que je ferai, c'est plutôt de la Russie avec la République de Weimar d'Allemagne. Pour moi, c'est pas Hitler. C'est un pays qui est humilié, encerclé, bourré de corruption, désordre, totalitarisme latent et réel, etc. Si on continue comme ça, si on continue à isoler la Russie, elle va devenir un adversaire. Elle va basculer de Weimar à Hitler. Je ne pense pas que ça soit Poutine. Je pense que c'est après lui qu'on a le danger. Donc, il ne faut pas refaire avec la Russie de Poutine l'erreur qu'on a fait en 1920.
Donc, il faut lui parler, il faut le rencontrer.
Il faut pas l'isoler. Il fallait pas supprimer le G8. Il faut pas faire la même erreur qu'on a fait avec l'Allemagne de Weimar en l'isolant, en lui forçant à rembourser des dettes qu'elle pouvait pas payer, etc. Donc, il faut à tout prix intégrer la Russie. Ça prendra du temps. La Russie n'est pas une démocratie. Elle est bourrée de kleptocrates et de gangsters, comme beaucoup de pays du monde. Elle n'est pas la seule. Il y en a aussi un peu partout à travers la planète. Il faut donc avancer lentement vers une démocratie russe. C'est notre intérêt.
Ça veut dire que, par exemple, sur la Crimée, on laisse tomber ?
C'est fait ?
Moi, je pense que oui. D'abord, je ne comprends pas trop cette question. Supposons que un gouvernement suisse devenu un peu fou, à Berne, décide du jour au lendemain que le français n'est plus langue nationale, suisse. Dans ce cas-là, les Genevois et les gens de Lausanne auraient pu très bien dire, écoutez, nous, on demande à être attachés à la France. Et qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit oui, bien sûr. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens de Crimée sont russes. Le gouvernement ukrainien a fait la faute incroyable de dire que le russe n'était plus langue nationale. Les Criméens se sont dit, attendez, non, c'est plus possible, on va rejoindre la mère patrie. Je rappelle que la Crimée est russe depuis trois siècles, et qu'elle a été ukrainienne que par le hasard d'un arbitrage à l'intérieur du Parti communiste rendu par Khrouchtchev en 1954. Donc, et j'ajoute plus loin encore, une question de principe, quand un peuple ou une région décide qu'il n'est plus d'accord pour être dans un pays, mais qu'il veut soit être indépendant, soit être neutre, soit rejoindre un autre, je vois pas comment on le refuse. Alors évidemment, ça pose un problème de fond. C'est la première fois que, dans l'Europe, un pays ne décide pas d'être indépendant en rompant. Ça a été le cas de la Tchécoslovaquie, qui s'est coupée en deux. Mmh. Personne ne s'y opposait. Ça a été le cas de la Bosnie, qui est sortie, du Kosovo, qui sont sortis sans l'accord de la Serbie. On n'aura pas. Ils sont sortis. Bon, de la Serbie, ils sont sortis un petit peu comme la Crimée sort de l'Ukraine sans l'accord de l'Ukraine. Mais la différence, c'est que le Kosovo n'a pas demandé à être attaché à un autre pays, et que là, on est dans le premier cas où on peut parler d'annexion. C'est pas une annexion, c'est un pays qui, une région qui demande son indépendance et qui demande d'être. Alors, évidemment, ça ouvre une boîte de Pandore en Europe de la modification des frontières. Ça ouvre cette boîte de
l'agenda de Poutine dépasse la Crimée. Aujourd'hui, dans le conflit tel qu'il se déroule sur le territoire ukrainien, il le dit lui-même, ce qu'il ne veut pas, c'est avoir l'OTAN si proche.
Mais bien sûr, il a raison, c'était une faute de laisser entendre en 2008 que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN. C'est une faute. On peut très bien le comprendre.
Alors jusqu'où on va payer les fautes commises sous pression américaine finalement ?
Sous pression américaine, la France a signé ce texte en 2008 disant que nous souhaitions que l'Ukraine soit dans l'OTAN. On a signé ce texte. Donc il faut aujourd'hui calmer le jeu. L'Ukraine n'a rien à faire dans l'OTAN. L'Ukraine a tout à faire dans l'Union européenne, mais rien à faire dans l'OTAN.
Mais vous pensez que les Américains sont prêts à entendre ça ?
Les Américains ont trois raisons pour ne pas être prêts à entendre ça. La première, c'est Chicago, dont j'ai parlé. L'influence de tous les lobbies polonais, ukrainiens, etc., qu'on peut comprendre, parce que les États-Unis, c'est une sorte d'Europe qui a réussi. Donc tous les peuples y sont, etc. Mm. La deuxième raison, c'est qu'ils ont leur complexe militaro-industriel a besoin de reconstituer un ennemi. Et la troisième raison, c'est qu'ils n'arrivent pas de faire de la Chine un ennemi. Pour l'instant, la Chine n'est pas potentiellement l'ennemi de substitution à l'Union soviétique. Donc, le retour de la Russie comme ennemi est béni des dieux pour les États-Unis. Mais nous, Européens, on a tort de tomber dans ce piège.
On va commenter l'actualité du jour dans une autre place de la planète. Il s'agit du Proche-Orient, un processus de paix depuis des décennies qui n'avance pas, qui est en panne depuis plus de 15 ans maintenant. Une rencontre aujourd'hui à Rome autour du pape François entre deux de vos amis, Shimon Peres, président israélien, Mahmoud Abbas, le palestinien. Ça peut déboucher sur quelque chose où il faut finalement se résigner à ce qu'il y ait un processus qui soit finalement une voie stable, que ça bouge pas, on n'avance pas, on ne recule pas, mais ce conflit ne sera jamais résolu.
Là encore, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la vie politique française. On voit ce qui se dit en public et puis on voit ce qui se fait ou se dit en privé. Moi qui ai le privilège souvent de rencontrer en privé les dirigeants de France et du monde, je peux vous dire qu'en privé, c'est pas du tout ça le discours. Ouais. En privé, Shimon Peres et Mahmoud Abbas sont dans l'opposition dans leur propre pays, tous les deux. Et ils savent très bien que le gouvernement israélien, comme les dirigeants réels de la Palestine, ne veulent absolument pas de cet accord. Le gouvernement israélien, en réalité, veut un État, le Grand Israël, et au fond, retenez bien ce que je vais vous dire, si je peux me permettre, les Palestiniens, aujourd'hui, ont pratiquement renoncé à un État palestinien. Ils veulent le Grand Israël. Ils veulent non plus deux États, mais un seul. Ils veulent retourner à leur stratégie ancienne, en disant, bon, bah, écoutez, on n'a pas réussi à faire un État, on va faire un seul, et dès qu'on en aura fait un seul, eh bien, on dira, nous sommes en Afrique du Sud.
Et apartheid.
C'est l'apartheid. Donc, l'étape suivante, c'est que vous allez céder. Et la stratégie réelle des vrais dirigeants palestiniens, qui ne sont pas Mahmoud Abbas, mais ceux qui sont derrière lui, c'est de renoncer en connivence avec les extra-israéliens. Parce que, comme toujours, il y a une connivence des extrêmes. La connivence des extrêmes, c'est les Israéliens veulent un État messianique. Les extrémistes israéliens, ce n'est pas du tout le projectionniste initial, veulent un État messianique total. Les extrémistes palestiniens s'en contenteraient assez bien, dans la mesure où ça leur permet de revendiquer un État unique, dans lequel ils revendiqueraient une situation d'apartheid pour finir comme l'Afrique du Sud, avec l'expulsion la fin du règne des minorités.
Pas très loin d'Israël, la Syrie, 160 000 morts, Bachar el-Assad réélu, des attaques chimiques qui se poursuivent, une tragédie absolument terrible. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion à l'automne dernier? Est-ce qu'il faut à nouveau envisager des attaques pour mettre fin à ce drame?
Oui, il y a eu un moment historiquement très important, c'est la lâcheté américaine, qui n'est pas la première fois. Nous l'avons connu une fois, nous avions exactement la même situation quand il s'est agi il y a 30 ans de faire des représailles contre des terroristes syriens au Liban, après l'attentat contre deux immeubles français et américains, où au dernier moment, exactement comme cette fois-ci, les Américains ont laissé tomber les Français. Cette fois-ci, nous y avons été, nous avions fait nos représailles sans les Américains. Cette fois-ci, la France ne l'a pas fait, et je peux très bien le comprendre. Mais le monde du terrorisme a entendu, les Américains ne sont plus une menace. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, au moment de vérité où il s'agit de frapper, ils sont pas là.
Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
Eh bien, on prend conscience que nous sommes dans un monde comme à la fin de l'Empire romain, où l'Empire décline lentement, sauf à imaginer qu'un prochain président des États-Unis est à la fois l'élégance, l'intelligence, l'empathie, le souci du bien-être de la planète de Monsieur Obama, mais en même temps du courage.
Vous êtes, je le disais, romancier, huitième roman, Notre vie distille, donc c'est une fiction, comme naturellement dans l'écriture romanesque, mais vous placez un point important de ce récit autour d'un conflit qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas venir, c'est tout autre chose, c'est en Asie, entre le Japon et la Chine. Alors c'est une fiction totale, où vous avez ancré votre récit dans une réalité potentielle, puisque vous l'annoncez pour 2015.
Oui, le roman se passe en 2015, il raconte la vie de personnages qui sont prescients, qui devinent l'avenir, et avec beaucoup d'aventures personnelles, mais je l'ai situé dans un environnement géopolitique, parce que je trouve que dans les romans, on parle trop des personnages sans les mettre dans leur
contexte. C'est aussi
de la
fiction, contexte. Ça c'est une réalité.
Alors, j'ai imaginé trois sources de conflits possibles. L'un qui serait en Russie, donc on n'est pas loin d'y être. Le deuxième serait dans le nœud de vipère qui se trouve entre l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Syrie, autour
des Kurdes, notamment.
Des Kurdes, qui sont une région qui va être extrêmement contestée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Puis la troisième, qui est la plus évidente, c'est la bataille qui se joue en mer de Chine ou en mer du Japon, comme on voudra l'appeler, pour le contrôle des îles qui portent Sengaku ou Sayo, suivant lequel on l'appelle du nom japonais ou du nom chinois, et contrôle de la mer de Chine. Et là, il y a une vraie tension militaire. Alors, ça ressemble pas à 1933, 1939, ça ressemble à 1913, 1914, c'est-à-dire un incident qui peut entraîner une catastrophe. Supposons un engrenage d'alliance. Supposons qu'il y ait une bataille aérienne de hasard entre l'aviation chinoise et l'aviation japonaise, qu'il y a un avion qui soit détruit, la guerre commence, l'engrenage des alliances fait que les États-Unis sont obligés d'entrer en guerre, et accessoirement nous aussi.
Et vous pensez effectivement que les Américains, dans ces cas-là, joueront totalement leur alliance auprès des Japonais ?
Sans hésiter une fraction de seconde.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie française à cheval entre la Chine, le Japon comment...
Nous avons la diplomatie française est remarquablement dirigée aujourd'hui par un grand ministre, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un de mes amis
Laurent Fabius
d'enfance que je le dis, je suis très fier de la façon dont il dirige la diplomatie française. On a rétabli l'équilibre, nous sommes audibles partout, nous sommes calmes et posés. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui et sur la gestion de l'affaire ukrainienne. Ça ne m'empêche pas de trouver que c'est une gestion remarquable pour son ensemble. J'aurais été au G8, pour ma part. Je n'aurais pas supprimé le G8. Mais mis à part ça, je trouve qu'on a une position d'équilibre tout à fait lucide et excellente.
Il y a un autre domaine dont on pourrait parler à propos de ces lieux de paix, d'échange, de solidarité. Il s'agit de la francophonie. Vous êtes sur la chaîne de la francophonie, les chaînes, j'allais dire, avec RFI, TV5 Monde et naturellement le quotidien Le Monde, qui s'exprime également dans cette langue. On voit généralement un espace culturel. Vous allez plus loin dans un rapport que vous allez remettre à François Hollande. C'est un espace aussi de solidarité économique, diplomatique. C'est un grand ensemble. C'est pas une dimension institutionnelle habituellement ?
C'est un rapport que je vais écrire, donc vous permettrez de pas vous dire ce qu'il y a dedans,
naturellement,
parce que je l'ai pas écrit.
Mais enfin.
Je dois le remettre le 28 août, donc il me reste encore quelques jours avant de finir mon devoir.
Donc vous savez à peu près ce que vous allez quand même écrire. Vous avez quelques idées.
Disons que j'ai quelques idées, mais je vais pas vous les donner. Je vais simplement dire plusieurs choses. La première, la francophonie dans le monde francophone est appréciée de tout le monde sauf des Français. Les Français sont les seuls à ne pas voir l'importance de la francophonie, qui est absolument majeure. Deuxièmement, la francophonie, c'est une puissance linguistique gigantesque, puisque nous sommes plus de 200 millions à parler cette langue, et nous pouvons être 750 millions à parler cette langue dans 40 ans à cause de la croissance de l'Afrique. Troisièmement, la francophonie ne se réduit pas à l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est clair, mais c'est aussi le Vietnam, c'est aussi le Canada, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays. Quatrièmement, ça ne se réduit pas au seul pays francophone. Il y a des tas de pays qui ne sont pas francophones en tant que tels, mais qui ont qui doivent avoir une importance de francophone majeure, je pense en particulier au Nigeria. Le Nigeria, qui va avoir 400 millions d'habitants dans 30 ans, est entouré de pays francophones. Il suffirait que 10% des habitants du Nigeria parlent français pour que ça change profondément la donne. Et en fait, ça sera beaucoup plus que 10% d'habitants parce que ça devient la deuxième langue et nous avons une importance majeure. Donc, nous avons un rôle très important dans tous ces pays. Et par ailleurs, j'ajoute que j'ai inventé un mot qui se trouvera dans le rapport. Donc, je peux déjà vous le dire, c'est le mot de francophilophone. Parce que il y a aussi les francophiles.
Francophilophones.
Voilà. Il y a aussi les francophiles qui sont dans d'autres pays tout à fait différents, qui sont francophiles et francophones, mais vous avez des tas de gens qui sont élèves des grandes écoles françaises, qui sont passionnés d'une partie de la culture française et qui vivent au Mexique, en Inde, qui sont attirés par le cinéma, par la chanson et qui jouent un rôle très important dans leur propre pays et qui peuvent pour cela développer considérablement notre croissance. Je pense et j'essaierai de montrer dans ce rapport que le développement de la francophonie économique, surtout avec les nouvelles technologies qui vont permettre de changer beaucoup de choses, peut représenter plus d'un point de croissance pour la France.
Et vous êtes là aussi encore partisan d'un élargissement, parce que là aussi il y a débat, il y a des membres de la francophonie qui voudraient un resserrement.
Une soixantaine de pays membres de la francophonie.
Je voudrais pas que la France se réduise à la francophonie institutionnelle, même si la francophonie institutionnelle est très importante. Mais je rêve de ce que ces institutions soient aussi fortes. L'Europe, ne se réduit pas à l'Europe. L'Europe a des Européens hors d'Europe et elle joue un rôle très important. La francophonie a des francophones hors de francophonie et c'est très important. Et moi, je rêve de ce que là, nous ayons deux ensembles institutionnels, l'Union européenne et une Union francophone qui serait aussi forte que l'Union européenne, qui montrerait d'ailleurs qu'on peut être pro-européen sans abandonner la grandeur de la France.
La francophonie, elle a aussi un agenda politique, notamment depuis Abdou Diouf.
Les institutions francophones, pas la francophonie. Les institutions.
Oui, l'organisation de la francophonie, tout à fait. Un agenda axé sur la bonne gouvernance. Oui. Ça devient compliqué. L'année prochaine, ça va être une année pleine d'élections en Afrique, avec des présidents qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, qui veulent modifier la constitution. Comment est-ce qu'on concilie une volonté du retour de la France sur le terrain économique en Afrique et ses exigences de bonne gouvernance?
Il va falloir pousser progressivement ces pays à aller dans la bonne direction, celle de la démocratie que certains pays ont montré, pas seulement dans la francophonie. Le Ghana, le Sénégal montrent qu'il y a un développement économique
et une voie démocratique.
Et que la démocratie et la croissance sont parfaitement compatibles.
Qu'est-ce qu'il faut faire à propos de la RDC, par exemple, à propos du Burkina,
du Brazzaville, etc. C'est un pays majeur, la RDC, puisque c'est le pays francophone le plus peuplé, et c'est notre Nigeria, de toute façon. Donc tout ce qui pourra être fait pour que la France attache de l'importance à ce pays pour l'aider à évoluer.
Les Américains ne veulent pas d'un troisième mandat de Kabila, on le sait, par exemple.
Mais ça, c'est aux habitants de ce pays d'en décider. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il évolue, ce pays évolue dans une direction de stabilité.
Et la francophonie doit se mêler de ça ou pas?
Oui, bien sûr, ça fait partie de son mandat. Et le président Diouf a magnifiquement géré cette dimension de son mandat.
Monsieur Thomas, le monde. Je rebondis sur un mot que vous avez prononcé, la francophilie. Est-ce que cette francophilie, faudrait aussi l'encourager davantage en France même? Il y a tout un débat sur la fuite des cerveaux en France. Et pour certains, c'est une très bonne chose. Pour d'autres, c'est le signe que le pays finalement n'est même plus considéré comme un horizon d'espoir pour ses propres ressortissants.
Il y a deux façons de le concevoir. Il y a la haine de soi qui amène à partir en haïssant soi-même. Puis quand on a confiance en soi, on peut aller défendre les intérêts français. Moi, j'ai rencontré récemment en Chine un Français qui a commencé par me dire le mal qu'il pensait de la France, le caractère scandaleux, tout ça. Et quand j'ai demandé ce qu'il faisait comme métier, il vendait les produits français en Chine. Vous voyez, donc il y a parfois une schizophrénie qui s'installe. Donc, moi, je suis pas contre que les Français partent défendre la France à l'étranger. C'est pas plus mal. Nous avons besoin d'une diaspora. Il y a plus d'Allemands que de Français à l'étranger, m'a-t-on dit, même si j'ai pas encore vérifié ces statistiques. Je suis pas contre. Nous avons besoin d'une présence forte, mais une présence fière. Une présence revendicatrice, une présence qui affirme cette culture. Et évidemment, ça pose la question du projet français. Mais il ne peut pas y avoir de francophilie sans projet français.
Jacques Attali, nous avons tout à l'heure dans le portrait tenté de montrer les multiples chemins que vous avez empruntés. Il y en a un que vous n'avez jamais, peut-être que les téléspectateurs et auditeurs se le disent en ce moment, super, il a des idées sur tout. Tiens, c'est curieux, il n'est jamais allé au-devant des électeurs. Jacques Attali a les mains propres, mais il n'a pas de main, comme on pourrait dire, dans un autre domaine. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais, et excluez-vous après tout, pourquoi ne vous êtes-vous jamais présenté?
Les circonstances ont fait que je n'ai pas jamais été...
Non, ça on n'y croit pas.
Non, les circonstances ont fait que j'aurais pu être candidat aux élections législatives.
Bien sûr.
Je l'ai refusé, quand François Mitterrand m'a demandé instamment de le faire, de façon à, même s'il m'a proposé malgré ça d'être ministre. Après, je l'ai refusé parce que j'ai considéré que ce n'était pas mon destin à cette époque. Aujourd'hui, je l'exclus par nature, puisque ce serait ridicule. Imaginez que quelqu'un comme moi se présente aux élections présidentielles, je ferais 0,5% des voix, ce serait grotesque. J'estime cependant que, indépendamment de moi, on ne peut pas exclure qu'un inconnu surgisse de nulle part pour présenter un projet au pays et qui puisse s'imposer si la circonstance l'exige un jour en cas d'urgence. Mmh. Mais je m'exclus de ce contexte.
Vous avez des noms en dehors du vôtre?
Laissons la démocratie fonctionner.
Mmh. C'est un regret que vous avez?
Non, pas du tout, parce que j'ai fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup de projets devant moi, je regarde pas derrière. Je crois que j'ai servi et que je sers encore mon pays le mieux possible. Il y a des choses qui, dans la vie, la pire chose qu'on puisse faire, c'est d'être ridicule. Et je n'ai pas envie de l'être.
De quelle influence est-ce que vous pensez disposer? Quand vous avez soumis un rapport à Sarkozy, un rapport à Hollande, que vous voyez qu'on avance, l'emploi ne redémarre pas, etc., vous pensez
C'est vrai que j'aurais plus d'influence si j'étais président de la République, qu'il n'y avait pas de parlement, pas de gouvernement et que je pouvais imposer les choses, ça c'est sûr. Mais bon, la France est heureusement une démocratie et ça marche pas comme ça. J'estime avoir une certaine influence par les idées que je peux lancer, ou j'ai pu lancer en étant dans différentes circonstances, et j'ai l'intention de continuer.
Merci Jacques Attali. Peut-être compléterons-nous le portrait qui vous était consacré avec cette voix que vous faites qu'évoquer. Merci en tout cas d'avoir été l'invité d'International avec RFI TV5 Monde en liaison avec Le Monde. Nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre rencontre avec un invité. Merci d'avoir été avec nous Jacques Attali.